l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour et bienvenue dans Accent. Et d'abord, le retour inattendu d'une épidémie qui fait peur, qui fait penser immédiatement à l'arme bactériologique, celle évidemment de la maladie du charbon dans le Grand Nord russe. C'est l'une des conséquences dramatiques du changement climatique accéléré d'un été anormalement chaud qui a fait fondre le permafrost, ces sols gelés. Du jamais vu depuis 75 ans, près d'une centaine de personnes, dont la moitié d'enfants, a été hospitalisée afin de limiter les risques de contagion. Étienne Bouche.
Cet été à Yamal, le thermomètre a parfois affiché près de 35 degrés. Sur ce territoire où vivent principalement des éleveurs nomades de rennes, les températures ont dépassé de 8 degrés la normale saisonnière. L'une des conséquences de ce réchauffement, c'est la fonte du permafrost, ces sols gelés où sont enfouis des virus redoutables. Sur cette péninsule du Grand Nord, ce phénomène a fait ressurgir l'anthrax, la maladie du charbon qui touche aussi bien l'animal que l'homme. En l'absence de traitement rapide, cette infection est mortelle. Dans la région, sa dernière manifestation remonte à la Seconde Guerre mondiale. On la disait disparue, et les vaccinations ont d'ailleurs cessé depuis une dizaine d'années. Selon les scientifiques, le dégel d'un cadavre de renne mort de l'anthrax il y a plusieurs décennies serait très probablement à l'origine de l'épidémie. Une fois libérée, la bactérie aurait infecté des troupeaux de rennes. Plus de 2500 animaux sont morts cet été, et la population a également été touchée. Une vingtaine de personnes a été contaminée et un garçon de 12 ans est décédé. Sur place, les autorités ont dû prendre des mesures sanitaires drastiques. Quelques centaines de militaires ont été déployés pour incinérer les dépouilles des animaux. Une campagne de vaccination a été lancée et 700 personnes ont été placées sous traitement antibiotique. Un scénario qui fait penser à un roman d'anticipation, et pourtant, l'anthrax n'est pas la seule menace liée à la fonte du permafrost. Des chercheurs disent avoir découvert des virus géants, notamment dans des dépouilles de mammouths.
Millions de visiteurs se rendent chaque année à Amsterdam Estro pour les 800 000 habitants de la municipalité néerlandaise. Nombre d'entre eux excédés semblent le penser. À l'instar de Barcelone, Amsterdam, victime de son succès après la rénovation du musée Van Gogh, pourrait être tenté de prendre des mesures contre les effets néfastes de ce tourisme de masse. Le reportage de Laurent Berthaud commence dès sa descente de train.
Sur le quai d'Amsterdam Central, on les entend déjà, les valises à roulettes qui sont devenues le cauchemar des résidents. Les visiteurs n'ont que quelques mètres à parcourir pour rejoindre le quartier historique de la ville, juste en face de la gare. Tout comme les petites rues où les prostituées s'affichent en vitrine, le célèbre quartier rouge, la place centrale, le Dam, n'est qu'à 5 minutes à pied. Et c'est sur ce Dam que nous retrouvons Karen. Plusieurs fois par jour, elle guide des groupes de touristes, mais cela devient de plus en plus difficile.
Oui, ça devient un peu trop encombré. Il y a vraiment beaucoup de touristes.
Vous pensez que si trop de touristes viennent ici, la ville pourrait perdre son âme ?
Oui, je le pense. Là, nous sommes sur le Dam, un endroit très touristique, et vous aurez bien du mal à y trouver un Néerlandais, hormis les gens qui y travaillent. Cet endroit a vraiment perdu son âme, comparé aux endroits plus petits sur le bord du canal où on va pour prendre un verre. Ça n'a plus rien à voir.
Vous trouvez que la ville devrait réguler le nombre de touristes ?
Oui, elle devrait, je pense. J'ai entendu dire qu'il était question de construire 70 nouveaux hôtels. Je pense qu'ils ne devraient pas faire ça.
Épuisé par le bruit et la musique, ce riverain qui vit juste au-dessus d'une terrasse de café a tenté en vain de faire déguerpir une chanteuse qui a reçu le soutien des touristes. Les Amstelodamois aiment à dire qu'ils aiment le bruit de la ville, mais dans l'hypercentre, le brouhaha constant, les cris et les chants viennent désormais à bout de leur patience.
Hello. Hello. Ben, tu me feras hippie? Ah, oui, amida.
Else Hipping et son mari vivent depuis une trentaine d'années dans une maison typique d'Amsterdam, juste au bord d'un canal, non loin du quartier rouge. Mais depuis quelque temps, la coupe est pleine.
Ici, c'est un quartier très ancien et les rues sont très étroites. Elles ne sont pas du tout adaptées à des groupes de touristes. Ils ont d'ailleurs beaucoup de mal à se déplacer dans le quartier. Alors, imaginez, nous, les résidents, ce que nous devons endurer. Il y a souvent des touristes qui viennent faire la fête, enterrer leur vie de garçon ou de jeune fille. Ils passent leur temps à boire de l'alcool et à faire du bruit. Ils ne respectent aucune règle. Et finalement, c'est nous qui nous sentons étrangers dans notre propre ville. On a vraiment l'impression d'être des habitants de seconde zone. Et les touristes eux-mêmes commencent à se plaindre de ne plus voir que des touristes.
Else est très active au sein des Amis de la ville d'Amsterdam, une association dont la vocation première était de défendre le patrimoine. Aujourd'hui, ses 3500 membres font pression sur la mairie pour que le tourisme ne dénature pas complètement le quartier.
Il y a un an, nous avons lancé une pétition qui a recueilli 6500 signatures pour demander l'interdiction d'une nouvelle attraction, les bars à bière à vélo. C'est une sorte de comptoir roulant avec des gens tout autour qui pédalent et qui boivent de la bière en pleine rue, en jetant leurs gobelets partout où ils passent. Et la ville a finalement accepté d'interdire cette attraction à partir du 1er janvier 2017.
De bierfiets vanaf volgend seizoen geworden.
L'association des Amis d'Amsterdam s'élève également contre l'explosion du nombre de Nutella Shops, comme on les appelle, des marchands de gaufres qui prennent systématiquement la place des magasins de proximité. Dans le collimateur des résidents également, Airbnb, la plateforme de location entre particuliers. Dans ce combat, ils ont reçu le soutien d'une élue de l'opposition de gauche à la mairie, Marie-Hélène Mormon.
Nous souhaitons limiter les locations via Airbnb à 30 jours par an, car selon nous, on ne devrait pouvoir louer sa maison que lorsque l'on part en vacances. Mais qui prend plus de 30 jours de vacances par an ? D'où cette limitation à un mois. Le système Airbnb n'a pas seulement un effet sur l'accroissement du nombre de touristes, mais aussi sur le prix des maisons à Amsterdam. L'impact est très fort.
La municipalité assure de son côté déjà agir contre les effets négatifs de Airbnb. Sébastien Meyer, porte-parole de la députée maire d'Amsterdam, Kasia Ollengren.
Nous sommes très attentifs au développement des hôtels illégaux, par exemple Airbnb, mais ce n'est pas la seule entreprise à offrir ce service ici. On ne les accuse pas de faire quelque chose de mal, mais on voit le résultat sur notre ville. Des maisons sont achetées et transformées en hôtels illégaux. Nous faisons vraiment attention à ça et nous consacrons beaucoup d'argent à lutter contre. Actuellement, nous fermons deux hôtels illégaux chaque semaine ici à Amsterdam. Nous voulons que ces quartiers restent résidentiels et pas transformés en quartiers d'hôtels illégaux.
Quant aux hôtels, la mairie assure que ceux actuellement construits au centre-ville correspondent à des programmes anciens. À l'avenir, il sera beaucoup plus difficile d'en construire dans l'hypercentre. Autre chantier, les autocars de touristes qui déposent chaque jour 4500 personnes en centre-ville. La mairie veut créer des parkings en périphérie. La municipalité veut aussi limiter le nombre d'événements dans les parcs et sur les canaux. Autant de changements qui devront être réalisés progressivement, précise Sébastien Meyer.
On ne va pas mettre des barrières autour du centre-ville pour empêcher les touristes de rentrer. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'en accueillant tous ces touristes, les résidents continuent à se sentir chez eux, mais aussi que les touristes sentent qu'ils sont les bienvenus. Il faut aussi trouver un compromis avec les entreprises qui vivent de cette activité touristique. Donc il faut satisfaire à la fois les citoyens de la ville, les commerçants et les touristes.
Et il y a urgence, la municipalité prévoit un doublement du nombre de touristes en 10 ans à Amsterdam, soit 30 millions de touristes par an en 2025. La municipalité a déjà invité les touristes à visiter plutôt d'autres villes des Pays-Bas, comme Rotterdam, La Haye ou Utrecht.
Les jeunes... Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors, hein, c'est une information qui s'est faite discrète pendant l'été. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, en août dernier, une étude commandée par Eurostat est venue confirmer la situation très inégale des jeunes de moins de 30 ans en Europe.
Intitulé « Éducation, emploi, les deux, ni l'un ni l'autre », que font les jeunes dans l'Union européenne ? Cette étude apporte un nouvel éclairage grâce à ces chiffres récents sur l'activité des jeunes en Europe entre 15 et 29 ans. Ils constituaient en 2015 17% de la population européenne tout de même. L'Institut statistique européen, donc Eurostat, les a classés en trois tranches d'âge, les 15-19, les 20-24 et les 25-29, classification qui permet de visualiser la période de basculement des jeunes de l'éducation vers le travail.
Le premier enseignement de ce document, c'est que les jeunes sortent davantage du système après la fin des études obligatoires, Eve.
Oui, en clair, plus les jeunes s'approchent de la trentaine, plus ils ont de difficultés à maintenir une activité, quelle qu'elle soit, professionnelle ou étudiante. Chez les moins de 20 ans, par exemple, une écrasante majorité des personnes sondées est encore en cours de formation, près de 80% des jeunes. Seulement 6% appartient au fameux NEETS. Vous savez, c'est la terminologie européenne pour désigner les jeunes qui ne sont ni en train de travailler, ni en train de se former. Or, 10 ans plus tard, chez les 25-29 ans, une petite majorité seulement travaille, 58%, et le deuxième groupe le plus représenté est celui des NEETS, justement, près de 20%, 1 sur 5. À cet âge-là, donc, un jeune sur 5 n'a pas d'activité.
Et les disparités entre les pays sont énormes.
Oui, cette fois-ci, c'est au sein de la tranche d'âge 20-24 que les fossés sont les plus creusés. À cet âge-là, près d'un Italien sur trois est sans activité. C'est le record européen. Suivent les jeunes Grecs, puis les Croates et les Roumains. À l'inverse, c'est en Autriche, en Suède et en Allemagne, mais surtout aux Pays-Bas et au Luxembourg, qu'ils sont le moins nombreux, moins de 1 sur 10. Globalement, une carte nord-sud se dessine, même si les pays du nord commencent à perdre lentement leur avance.
Et certains pays ont d'ailleurs connu des évolutions radicales ces 10 dernières années.
Oui, toujours pour cette tranche des 20-24 ans, même si le taux de NEETS est resté relativement stable sur ces 10 dernières années, au niveau européen, il a fortement évolué au sein des différents pays. Dans 10 d'entre eux, la proportion s'est réduite. C'est le cas notamment en Allemagne, de manière assez spectaculaire, moins 10 points, en Bulgarie, en Suède, en République tchèque et en Pologne. Tandis que dans les 18 autres pays, la situation s'est plutôt détériorée et l'évolution est particulièrement préoccupante, comme je le disais tout à l'heure, en Italie, mais aussi en Grèce et en Espagne, où la part des NEETS a augmenté de 10 points environ, et dans une moindre mesure au Danemark, cette fois-ci au Royaume-Uni et en Finlande, un peu moins de 5 points.
Eve, enfin, avez-vous quelques chiffres à nous communiquer pour la situation en France ?
Le cas de la France est relativement stable pour cette tranche d'âge et le taux d'inactivité des jeunes se situe dans la moyenne européenne, environ 16%. On peut néanmoins noter que les jeunes français de moins de 24 ans sont de moins en moins nombreux à être insérés sur le marché du travail à cet âge-là et semblent donc prolonger leurs études en les cumulant avec un emploi le plus souvent, ce qui laisse penser que l'accès au premier emploi est de plus en plus compliqué et c'est vraiment cela qui pose problème, l'accès au marché du travail.
Merci Eve Minot, on vous retrouve évidemment à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Direction pour terminer les Açores, en plein milieu de l'Atlantique. L'archipel portugais se débat dans les difficultés économiques. Principale ressource, la pêche qui fait vivre des centaines de familles, mais peut-être plus pour longtemps. Si les Açores comptent près d'un million de kilomètres carrés de surface maritime, la mer y est très profonde et les zones de pêche restent peu nombreuses pour une flotte qui s'est peu modernisée. Située sur la côte nord de l'île de San Miguel, rabot de pêche, littéralement queue de poisson, est le plus grand port des Açores. Avec la diminution des stocks de poissons, les conditions de vie des pêcheurs y sont délicates, mais l'esprit communautaire perdure. Anastasia Becchio s'y est rendue.
C'est l'heure où le port de rabot de pêche s'anime. À la mi-journée, les bateaux commencent à rentrer. Des pêcheurs déchargent des caisses de poissons sur le quai. Pedro, 20 ans de métier, s'installe sur le pont de son petit chalutier pour réparer ses filets.
Aujourd'hui, on a réussi à attraper quelques langoustes. Parfois, on attrape du poisson, parfois non, ça dépend. Il y a beaucoup de bateaux ici à San Miguel qui viennent pêcher. Nous sommes en crise, c'est une grosse crise. Il n'y a pas beaucoup de poissons, les pêcheurs se plaignent beaucoup.
Rabot de pêche et ses quelques 9000 habitants contrastent avec le reste de l'île très proprette. Des tags recouvrent des entrepôts délabrés du vieux port. Dans les ruelles étroites du quartier des pêcheurs, des jeunes désœuvrés sont assis devant les maisons aux couleurs vives. Ici, la crise est bien visible. Manuel Moniz est un journaliste local.
Il y a trop de gens à travailler dans la pêche. Traditionnellement, les gens vont pêcher, mais quand ils ont du boulot en terre, ils vont travailler. Normalement, parce qu'ils n'ont pas trop d'éducation, ils travaillent dans la construction. Alors, la construction dans les Açores est presque finie il y a 10 ans de ça. Alors, tout le monde est revenu dans la mer. Mais ce qui se passe là maintenant, c'est que les gens, même les chefs des bateaux, ils ne peuvent pas dire non à quelqu'un qui veut pêcher seulement pour manger quelque chose, pour avoir un petit morceau de poisson pour eux. Alors, c'est ce qui se passe. Alors, il n'y a pas assez de poisson, il n'y a pas assez d'argent pour autant de gens.
Ouvert tous les matins de la semaine, le local du syndicat des pêcheurs ne désemplit pas. Le lieu a en réalité plus des allures de centre d'assistance sociale, comme l'explique Luis Carlos Brum, le président du syndicat des pêcheurs.
Étant donné que le rendement de la mer a chuté, le milieu de la pêche est tombé dans la dépendance aux subsides. C'est pour cette raison que le syndicat a un rôle qui dépasse largement ses obligations. Ici, nous sommes quasiment une assistance sociale. Nous les aidons à toucher leurs allocations, le revenu minimum d'insertion, les allocations familiales, le fonds européen pour la pêche, les subsides pour le diesel, l'essence. En moyenne, les pêcheurs gagnent entre 150 et 200 euros par mois. Ça n'est même pas la moitié du SMIC qui est de 500 euros.
Dans le bar voisin où Luis Carlos Brum vient prendre son café quotidien, deux pêcheurs sirotent une bière. Un troisième, à la retraite, est attablé devant une grande assiette de poisson frit.
Rabot de pêche, c'est le New York des Açores. Ici aussi, il y a de la drogue.
Drogue, pauvreté, chômage, alcoolisme, grossesse précoce, Rabot de pêche est souvent pointé du doigt par les médias portugais comme étant la communauté la plus dépendante des prestations sociales.
Ici, au sein de la communauté des pêcheurs de rabot de pêche, il y a beau y avoir de la misère et beaucoup de personnes dans le besoin, malgré tout, les gens sont heureux. Il y a beaucoup de chaleur chez ces gens.
De la chaleur, Ilotario s'est en donné dans son restaurant à quelques kilomètres de Rabot de Pêche, qui affiche très souvent complet. Des habitués, mais aussi des touristes, viennent déguster les poissons qu'il a souvent pêchés le matin même. Car avant d'être restaurateur, Ilotario est surtout pêcheur. Et c'est encore sur son bateau, au petit matin, qu'il se sent le mieux.
Je ne peux pas vivre sans la mer. J'ai commencé à pêcher à l'âge de 12 ans. Je partais en mer de nuit et j'étudiais durant la journée. C'est dans le sang, c'est de famille. Mon père était pêcheur et après il est parti travailler dans la police maritime. Mon grand-père était pêcheur baleinier. Mon père aussi était dans la baleine. Il y a aussi mes oncles, bref, toute la famille est dans la pêche.
Si Ilotario s'en sort mieux que les autres, c'est qu'il a eu la chance de pouvoir investir dans du matériel plus performant, ce qui ne l'empêche pas d'être inquiet pour l'avenir.
Je vais pêcher dans les coins où personne ne va. Je pêche à des profondeurs importantes avec des appareils plus modernes. Mais à chaque fois, il y a moins de poissons. Vous voyez cette barque-là avec les filets? Ce sont des cages en plastique qu'ils utilisent. Ça attrape aussi bien les grands que les petits poissons. Mais au lieu de les relâcher dans la mer pour qu'ils se reproduisent, ils les gardent.
La surpêche, mais aussi la pollution provoquée par l'agriculture intensive, provoque de gros dégâts. Les stocks de poissons pêchés aux Açores sont passés de près de 19 000 tonnes en 2010 à 9 000 l'année dernière.
Accent, c'est déjà fini. À la réalisation, Jérémy Besset et Pierre Chaffanjon. Retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Et restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, un peu de patience, les infos.